VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Ouagadougou, 17h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. En Belgique, deuil national de 3 jours jusqu'à jeudi inclus, après les attaques meurtrières d'aujourd'hui dans l'agglomération de Bruxelles, revendiquées par le groupe État islamique, qui ont fait au moins 34 morts et plus de 170 blessés dans l'agglomération belge. Le président américain Barack Obama, en visite à Cuba, a condamné ces attaques en les qualifiant de révoltantes. Il a assuré le premier ministre belge Charles Michel du soutien des États-Unis. Ces attaques terroristes ont ciblé Bruxelles ce matin avec des explosions à l'aéroport international et dans le métro de la capitale belge, ce qui a entraîné un relèvement de l'alerte antiterroriste à son niveau maximal dans le pays, plus la fermeture jusqu'à nouvel ordre de l'aéroport international de Bruxelles-Zaventem et une suspension du trafic du métro. Pour des précisions sur les attaques, Idriss Fall a contacté à Bruxelles Alphonsine Sorozo, une Rwandaise habitant la ville qui était dans le métro au moment des explosions.
Je me trouvais dans la rame des métros. L'explosion a eu lieu au niveau de la station Malbec. C'est la station juste après Schuman, là où il y a les bâtiments des bureaux européens, tout ça. Avant que je prenne les métros à la station où je la prends habituellement, je venais d'apprendre qu'il y a eu une explosion à Zaventem, l'aéroport. C'est une dame qui était à côté de moi qui m'a parlé de cette information. Et nous avons commenté sur le chemin avec ce qui s'est passé dernièrement, l'arrestation du dernier terroriste qui était recherché par la Belgique, en se demandant la suite qu'il allait donner. Et ça n'a pas fait 5 minutes. L'explosion a eu lieu. On était tous sous le choc, on avait une boule de feu. Puis bon, la panique, on s'est levé. Le temps de trouver une issue de sortie, il y a eu une deuxième explosion. Et là, bon, les vitres, normalement, on commençait à casser les vitres pour pouvoir s'extraire des voitures et métro. Donc on est sorti, on a cherché la première sortie pour accéder à la surface.
Vous avez vu des morts avant?
Ah oui. Déjà dans les tunnels, oui. À ma gauche, j'ai vu un homme qui était étendu, il était déjà mort. Il y avait des morceaux de chair humaine. L'horreur qu'on voit, c'était une vision apocalyptique. C'était horrible.
Alphonsine Sorozo, une Rwandaise habitant Bruxelles qui était dans le métro au moment des explosions. Réaction dans le monde musulman, Al-Azhar, prestigieuse institution de l'islam sunnite basée en Égypte, a condamné les attaques de Bruxelles, estimant qu'ils violaient les enseignements tolérants de l'islam.
Hôtel Azalaï Nord-Sud de Bamako, quartier général de la mission de formation militaire de l'Union européenne au Mali. C'est cette mission chargée de la formation des soldats maliens qui a été attaquée par des assaillants. Ils ont été repoussés par des gardes tchèques de l'EITM. L'un des assaillants a été tué alors que la mission militaire de formation n'a enregistré aucune victime ni blessée. Un autre assaillant de cette attaque s'était retranché dans un bâtiment non loin de l'hôtel qui abrite la mission de formation de l'Union européenne. Ce sont les échanges de tirs entre ces derniers et la garde de l'EITM qui a attiré l'attention de bon nombre de Bamakois. Après un point de la situation très tard dans la nuit, les forces en présence ont commencé des opérations de ratissage dans les alentours de l'hôtel en question. Il faut rappeler que le quartier des affaires de Bamako est à sa deuxième attaque terroriste après celle du 20 novembre 2015 à Radisson Blue qui avait occasionné la mort d'une vingtaine de personnes, dont des étrangers. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Il s'agissait donc de Kassim Traoré qui nous parlait de l'attaque au Mali, un assaillant tué. Tel était le bilan de cette attaque contre le quartier général de la mission militaire de l'Union européenne hier soir à Bamako. En moins de 10 jours, 2 attaques terroristes perpétrées en Afrique de l'Ouest. Les organisations de la société civile jugent insuffisantes les efforts consentis par les gouvernements de la sous-région pour faire face à ce fléau. Elles donnent des pistes pour limiter ces attaques qui nuisent au développement des pays affectés. Plus de précisions avec notre correspondante à Lomé, au Togo, Kayi Lawson.
4 mois après l'attentat à l'hôtel Radisson Blu à Bamako le 20 novembre 2015, la capitale malienne vient d'être victime d'une nouvelle attaque terroriste. Entre les 2 attaques, le terrorisme est passé par 2 villes de l'Afrique de l'Ouest, Ouagadougou au Burkina Faso le 15 janvier et Grand Bassam en Côte d'Ivoire le 13 mars dernier. Des attentats insoutenables pour la société civile qui amènent le réseau ouest-africain d'action sur les armes légères Razalao à se poser des questions. Amadou Moussa Maïga, président de Razalao Mali.
Nous avons besoin de savoir qui finance ces gens-là qui utilisent les armes pour tuer, pour détruire ce sur quoi nous, nous espérons pour développer chez nous. Qui les finance? Où est-ce que ça vient, ces armes? Comment est-ce que malgré les dispositions prises au niveau des frontières, ils arrivent à traverser? Comment? Qui est complice?
Bakar Dia, responsable de CET, une ONG mauritanienne active dans la lutte contre la prolifération illicite des armes et la criminalité transfrontalière, indique que la porosité des frontières ouest-africaines facilite la circulation des armes qui sont utilisées à des fins terroristes.
Je crois que si on arrivait à contrôler mieux les armes, on aurait dû quand même se passer de beaucoup d'attentats. Il y a une particularité sur laquelle nous devons sensibiliser tout le monde, c'est que le danger maintenant vient de l'interne. Les groupes sont à l'intérieur des pays. L'exemple du Bassam, l'exemple du Mali, le danger maintenant est à l'intérieur des frontières. Donc les États doivent redoubler d'efforts. Il doit y avoir un partage d'informations, un partage de stratégies pour endiguer ce phénomène.
Kailoson, Lomé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burundi, assassinat aujourd'hui d'un officier militaire souvent cité dans des cas de meurtre et de disparition. Après l'intervention violente de la police et de l'armée dans les quartiers dits contestataires de Bujumbura, le lieutenant-colonel Darius Ikura Kure a été abattu dans les locaux même de l'état-major de l'armée burundaise. Cette dernière n'a pas encore réagi. Plus de détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Commandant du bataillon de génie de combat dans le camp militaire de Muzinda, dans la province de Bubanza, au nord-ouest du Burundi, le lieutenant-colonel Darius Ikura Kure a été assassiné mardi après-midi dans les locaux de l'état-major général de l'armée burundaise par une personne armée, selon les témoignages de certains militaires qui ont requis l'anonymat. L'officier supérieur, très proche du pouvoir, a participé aux opérations de maintien de la paix du Darfour, une mission qui est convoitée dans l'armée burundaise pour sa rémunération. Il était commandant du bataillon de génie de combat de Muzinda, bien équipé et spécialisé dans le déminage des explosifs et des mines. Le jour du putsch manqué du 13 mai dernier, il s'était illustré dans la protection des locaux de la radio-télévision nationale burundaise. Mais l'opposition burundaise considère l'officier supérieur comme quelqu'un qui s'est investi dans l'enlèvement, la torture et l'exécution des jeunes des quartiers contestataires de Mutakura, Chibitoke, Ngagara, Jabe et Musagal. Darius Ikura Kure est le deuxième haut gradé de l'armée burundaise à avoir été tué dans l'exercice de leur fonction après la mort du lieutenant-général Adolphe Shimirimana, ancien proche du président Pierre Nkurunziza et ex-numéro 1 des services secrets burundais. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
On passe à l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Dans l'attente des résultats du scrutin, 5 candidats de l'opposition mettent en place une commission technique électorale parallèle. Ils ont signé un accord pour contrer le président Sassou Nguesso si jamais un second tour avait lieu, Eddy Sango.
Toujours pas de résultats alors que le pays était coupé du monde 2 jours durant. Le gouvernement a évoqué des raisons de sécurité et de sûreté nationale visant à empêcher l'opposition de publier des résultats illégaux. Malgré tout, l'opposition s'organise. Elle compile ses résultats parallèlement à ceux de la Commission nationale officielle, la CNI. 5 de ses candidats ont créé leur propre commission technique électorale. Guy-Brice Parfait-Kolelas, Jean-Marie Michel Mokoko, Claudine Mounari, André Okombi Salissa et Pascal Tsatsimabiala ne font plus confiance à la CNI. Ils veulent de ce fait surveiller les déroulements du vote. Partis en ordre dispersé lors du premier tour du dimanche dernier, les 5 candidats de l'opposition se sont engagés dans un pacte électoral contre M. Sassou Nguesso. Ils se sont fait la promesse de soutenir celui d'entre eux qui arriverait au second tour pour faire barrage au président sortant. Avant les scrutins, ils avaient jugé que les conditions n'étaient pas remplies pour des élections sincères, crédibles et transparentes. Dédaignant pour autant de boycotter les scrutins, ils ont appelé le peuple à exercer sa souveraineté au cas où Sassou Nguesso l'emporterait dès le premier tour, comme il l'a promis à ses partisans. Le gouvernement a jugé ces appels insurrectionnels. Craignant des violences post-électorales, les Nations Unies avaient appelé jeudi toutes les parties au calme.
Et pour terminer, au Niger, le président Mahamadou Issoufou remporte la présidentielle de dimanche avec plus de 90% des voix. Son adversaire, l'opposant Mahamadou, hospitalisé depuis le 16 mars à Paris, va nettement mieux selon son médecin et devrait quitter l'hôpital dans une semaine. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.